j'ai trouvé un peu condescendant que les gens sont surpris quand je dis que mon langue maternelle, c'est l'anglais. Je veux pas dire que je suis occidentale, je suis indienne. En Inde aussi, on écoute le jazz, on a une culture de lettres modernes. Oui, on est aussi un pays de 2021, tu vois.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Il y a un truc que je trouve fascinant avec le fait de cuisiner, c'est le constant mouvement dans lequel ce geste nous place. Alors qu'il faut se nourrir et faire à manger depuis toujours, comment se fait-il que cette activité ne nous lasse pas ? Bien sûr, il y a la cuisine de tous les jours, les plats ordinaires que l'on sort pour se nourrir sans passer 3 heures au fourneau. Bien sûr, faire à manger, c'est parfois la plaie. Mais pensons aussi à toutes ces fois où on est si ravi de feuilleter des manuels pour trouver une nouvelle recette, si étonné de découvrir telle ou telle association à laquelle on n'avait jamais pensé, et si enjoué à l'idée de tester une nouvelle table dans une nouvelle ville, en particulier lorsqu'on ne connaît pas encore la gastronomie de tel ou tel pays. Il y a déjà tellement de recettes dans le monde et pourtant, c'est toujours aussi enivrant de se dire qu'il va continuer à y en avoir plein d'autres. Des nouvelles créations, des sources d'inspiration renouvelées, des manières de faire twistées. C'est là tout l'enjeu, je crois, qu'il y a avec le fait de chercher à moderniser une cuisine. Par exemple, lorsqu'on a un bagage familial lié à un patrimoine culinaire national et qu'on cherche à le revisiter à la sauce contemporaine. Ou encore lorsqu'on veut préparer des plats issus d'une région du monde, mais depuis l'autre bout de la planète, avec forcément d'autres ingrédients et d'autres techniques de cuisson sous la main. Pas toujours facile de reproduire un plat à l'identique quand on n'a pas le même cadre, les bons ustensiles, les produits précis. Tout cela, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Zuri Camille de Souza, une chef originaire d'Inde du Sud-Ouest, qui vit et travaille aujourd'hui à Marseille après avoir pas mal bourlingué. En tant que chef indépendante, Zuri propose à la fois des plats à commander dans le coffee shop Deep, le temps d'un resto éphémère, mais elle est aussi une chef privée qui cuisine pour des particuliers qu'elle livre à vélo. Zuri cuisine des choses fantastiques, très inspirées de la street food indienne du sud-ouest de l'Inde et de ses voyages. Galettes à la nigelle, massaman curry, wrap de plantain frit, butternut korma masala, tandoori chana, naan à l'ail, biryani au chou-fleur confit. Sa carte change tous les jours et on sent que sa capacité à se renouveler quotidiennement vient vraiment de cet adage assez agaçant mais quand même parfois vrai, de la contrainte naît la créativité. Parce qu'en l'absence de certains ingrédients, Zuri en cherche d'autres pour aller jusqu'au bout de ses recettes. Le travail de Zuri permet de montrer plusieurs visages de la cuisine indienne et donc de déconstruire la vision très occidentale que l'on peut avoir ici de certaines régions du monde. Comme avec la cuisine chinoise, que l'on a longtemps présentée comme une cuisine nationale homogène, avant de finalement voir ouvrir des restos avec des cuisines chinoises régionales, mettant en avant des spécialités du Sichuan, par exemple. Il est question ici de cet enjeu qui est celui de sortir de l'image stéréotypée d'une cuisine nationale pour ramener de la complexité et de la finesse dans les cuisines non occidentales. Un peu comme lorsqu'on rappelle que, bien sûr, la cuisine japonaise, ça n'est pas que les sushis. Sur ce sujet, vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter notre épisode sur le curry avec Jody Danas. Allez, faisons maintenant connaissance sans plus attendre avec Zuri, qui nous explique ce qu'elle fait avec Sana, le service de traiteur qu'elle a créé il y a maintenant un peu plus d'un an.
Sana, c'est ma passion pour la cuisine de chez moi. C'est un traiteur végétal, la cuisine indienne moderne, mais avec les influences de tous les endroits où j'ai habité, parce que j'ai passé quand même un petit moment en Palestine, j'étais à Istanbul, j'étais à Dubaï. Et du coup, c'est la cuisine de chez moi, la cuisine de les endroits que j'aime et les choses que j'adore manger. À la base, ça a commencé avec, quand j'ai réalisé que je pouvais pas vraiment manger les choses que je voulais manger un jour. Ici, parce que déjà, il n'y a pas de communauté maharashtrienne ni de communauté goan ici. Et surtout parce que j'ai pas ma famille, j'ai pas les ingrédients.
Donc tu viens d'Inde du Sud-Ouest, plus précisément de Goa et de Maharashtra. Est-ce que tu peux nous parler des deux communautés dont tu es originaire?
Du coup, le côté de mon père, il est né à Nairobi, en Kenya, en Afrique de l'Est, et ma grand-mère aussi. Et en fait, Goa, c'était une colonie portugaise. Beaucoup plus après, l'Inde a gagné son indépendance de l'anglais jusqu'à 1962. Ça restait une colonie et il y avait beaucoup d'échanges de communautés entre Afrique de l'Est et Goa, en fait toute la côte ouest de l'Inde, à travers des choses un peu lourdes comme l'esclavage, des choses un peu moins compliquées mais quand même compliquées comme le trade des épices, de tissus, de plein de matériaux, des graines, plein de matériaux différents. Et du coup, mon père est au Kenya, mais quand même qui fait partie de cette communauté Goan, qui est une communauté côtière autour. C'était à la base, c'était une communauté de gens qui fait pousser le riz. Il y avait les cochons, il y avait les poissons, il y avait les noix de coco, les fruits de cajou. Et ma mère, elle vient de Maharashtra, qui est, c'est un peu l'inverse. Goa, qui est très c'est vraiment une petite région tropicale, très frais, beaucoup d'eau. Et ma mère qui vient de Maharashtra, qui est juste au nord de Goa, beaucoup plus grande. En fait, Maharashtra, ça veut dire la grande région en sanskrit. Et c'est la région la plus grande de l'Inde. Et c'est entre la côte ouest et le plateau, le Deccan Plateau, c'est le plateau un peu plus haut. C'est une région beaucoup plus sec. Il y a des endroits quand même avec plein de rivières. Mais c'est ma mère d'où elle vient, c'est très sec. Il y a les cacahuètes, il y a le millet, le barley, le orge. C'est dur à expliquer, c'est un peu comme Provence. C'est bizarre de dire ça, il n'y a pas le lavandre ni toutes les herbes. Mais c'est juste, il y a plein de petites montagnes, beaucoup de soleil, une terre très sec. Et moi, je suis vraiment entre ces deux communautés en termes de les langues que je parle, les choses qu'on mange chez moi et les choses que j'aime cuisiner.
J'imagine que le fait de venir de ces deux communautés, ça te donne plein d'inspirations liées aux cuisines qui sont en fait celles de ces deux endroits différents.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, vu comme Maharashtra, ça s'allonge jusqu'à la mer, il y a toute la côte Konkan en fait. C'est la côte qui fait, c'est la partie entre Maharashtra, Goa et plus Karnataka. Et c'est là où tout se mélange un peu, mais à la base, oui, c'est deux cuisines assez différente dans la manière d'utiliser les épices, les mélanges des épices, le type de viande qu'on mange, les légumes, la manière de cuisiner les légumes, les graines, les céréales qui occupent plus de place sur l'assiette. Tu vois, à Goa, c'est le riz rouge. Et à Pune, il y a plein de types de riz différents. Mais oui, c'est pas le même, mais il y a quand même des petites pointes en commun.
Alors moi, ce que je trouve puissant dans ta démarche, c'est que tu réinjectes en fait finalement de la subtilité dans une cuisine qu'on présente ici un peu comme un bloc entier, une entité monolithique, la cuisine indienne. Avec ta cuisine, on réalise que la cuisine indienne, elle est comme toutes les cuisines, elle est plurielle, elle change beaucoup selon les régions. Est-ce que pour faire certains plats indiens depuis la France, depuis Marseille plus précisément, tu galères parfois à trouver certains ingrédients ? Est-ce qu'il te manque certains éléments pour faire cette cuisine ?
Oh, il y a beaucoup. En fait, c'est ça qui est compliqué pour moi. C'est une chose que j'essaie de déconstruire un peu et j'ai pas encore arrivé. Et c'est l'idée qu'en fait, pour moi aussi, le côté local et durable, ça fait partie de mon practice comme cuisinier, comme chef. Mais à le même temps, il y a des épices, il y a des choses que je trouve très, très importantes, les épices et les céréales dans mon cuisine, qui ne viennent pas d'ici. Et parfois, je me pose des questions, est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez créative pour reprendre, retravailler les recettes? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez, je ne donne pas assez d'importance à mes valeurs? Et c'est un jour, je me suis dit, mais c'est OK de trouver un équilibre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je garde précieusement, des épices et des piments, surtout que j'ai ramené de chez moi, que j'utilise en petite quantité. Mais je trouve beaucoup de plaisir aussi quand je cuisine pour des gens Et j'ai le moment, l'opportunité de leur montrer un truc et dire que regarde ça, c'est un truc que tu vas jamais trouver en France. Même chez les épiciers assez stylés, parce que c'est pas des choses qui poussent en grande quantité. Et j'adore partager ça avec des gens qui mangent. Mais sinon, ouais, c'est un peu la joue. Essayer de trouver les saveurs, les parfums, les arômes de mes souvenirs dans les ingrédients ici. Et j'aime faire ça. Mais parfois, c'est dur. Et un peu déprimant.
Alors, vas-y, quels ingrédients il peut te manquer, alors, par exemple?
La chose qui me manque le plus, c'est les feuilles de curry frais. Et je pense que je ne suis pas le seul de dire ça. Et sinon, c'est bizarre de dire ça, mais je pense que le truc qui me manque le plus, c'est le levure sauvage dans l'air. Parce que j'arrive pas à faire fermenter les pâtes dans la même manière pour faire les dosas, tu sais, les galettes de lentilles fermentées.
Il te manque en fait un autre climat, quoi.
Voilà, il me manque le climat. Non, parce que j'ai essayé plusieurs fois et je me suis dit, mais est-ce que je suis trop nulle? Qu'est-ce que j'arrive pas à le faire? J'arrive pas à le faire lever. Je suis la recette de ma grand-mère, je suis la recette de mon père, je suis la recette de tout le monde et j'arrive pas à le faire. Et je suis convaincue que c'est l'eau, qu'il y a trop de chlore dans l'eau et il y a pas assez, il y a pas le, il y a des levures sauvages incroyables ici, mais il y a pas le même. Et du coup, il faut que je m'y mette à trouver un moyen, voilà.
Ah bah oui, parce que finalement, la fermentation, la magie de la fermentation, c'est qu'elle opère de telle ou telle manière selon l'eau qu'on utilise, les bactéries, et c'est un peu des éléments de base, l'eau et les bactéries, mais ça va changer du tout au tout selon l'endroit où on se trouve dans le monde.
Oui, voilà.
Et est-ce que tu peux nous parler d'une fois où tu as réussi à remplacer un ingrédient qui te manquait par quelque chose que tu as trouvé ici?
Je sais qu'une fois, j'ai mis dans un dalle, c'est un dalle de lentilles noires et de haricots rouges. C'est un dalle que normalement, il faut le faire cuire sur les cendres 12 heures. J'avais pas de cendres chez moi. Et voilà, et du coup, je pense avec juste le fait de faire cuire très longtemps, je peux le faire dans un casserole à marmite. Mais il y avait un truc, je sais pas, il y avait une acidité, mais un côté aigre-doux qui m'a manqué dans cette dalle et avec le vinaigre balsamique. Mais je sais pas qu'est-ce que c'était.
Waouh, donc c'est le vinaigre balsamique, le fait d'ajouter du vinaigre balsamique à ce plat qui t'a permis de retrouver le goût unique normalement généré par cette cuisson très précise que tu pouvais pas refaire ici. Et je me demandais, c'est quoi ton état d'esprit quand tu élabores un plat en cuisine? Comment tu raisonnes en fait quand tu imagines une assiette? C'est quoi finalement les piliers d'un bon plat selon toi?
Ça, c'est vraiment un truc de côté de ma mère et côté de mon père. C'est deux communautés. Et peut-être c'est une chose, je ne suis pas quelqu'un qui dit suivant les choses indiennes, mais je pense ça, c'est finalement une chose qui lie un peu l'Inde, qui est un peu assez divisé, compliqué, surtout en ce moment. C'est l'idée que dans un plat, il faut vraiment les quatre, les cinq saveurs. Je me demande le côté umami, qu'est-ce qu'on a en Inde. Je suis sûre qu'il y a des choses qu'on utilise pour donner cette cinquième saveur. Moi, le plat, ça commence quand j'ai les quatre saveurs dans ma bouche et tout est équilibré et je goûte beaucoup et quand je dis « Ah, ça manque quelque chose », c'est vraiment ça, c'est il faut avoir les quatre, il faut avoir le aigre, le doux, l'amer et le sucré. Et après, il y a le piment qui n'est pas qu'une chose qui arrache, mais un truc qui donne une finesse à le plat et qui donne des une fraîcheur qui peut même donner une richesse et un côté gourmand qui te... Peut-être c'est ça l'umami, c'est... Parce qu'en fait, moi, je sais que... Là, je commence à saliver, hein. Je parle de piment, je commence à... C'est compliqué, ça. Mais je me rappelle quand j'étais petite, et le dimanche, c'était le curry de poisson et le riz. Mais vraiment, beaucoup de riz et beaucoup de curry de poisson, c'était maquereau toujours. C'est mon père qui le faisait. Et c'était tellement épicé, mais il y avait le côté sucré de lait de coco, et il y avait l'acide de soie de mangue vert ou de tamarin. Il y avait aussi un peu de sucré, de... Oui, le sucré, c'est de coco, il y avait quoi? Bah, le sel. Et c'est tellement épicé, mais j'arrivais pas à m'arrêter de manger et j'étais aussi obligée de finir mon assiette avant de partir, sortir de la table. Mais avec le piment, ça m'a aidé en fait, ça te aide à... Tu sais, ça te donne de l'appétit. Et moi, je pense que je travaille dans le même principe. Et chez moi, chez ma mère, à Maharashtra, il y a toujours un petit mélange de cacahuètes. Et c'est comme un poudre, comme du zaatar. C'est de cacahuètes et des gousses d'ail et du piment sec, mais on peut écraser. C'est comme un poudre qu'on met sur les assiettes et ça donne. Et du coup, en termes de saveur, je travaille comme ça, qu'il faut toujours les 4-5. Pour les textures, chez nous, on mange plein de petits trucs dans l'assiette le même temps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit truc qui est un peu frais, il y a un petit truc qui est un peu comme un sauce. Il y a les chapatis, les galettes du blé, et puis il y a le riz. Et avec chaque truc, son petit assaisonnement. Et j'essaie de créer ça aussi dans mes bowls, que c'est pas juste dal and rice, riz et du dal. Il y a aussi quelque chose de frais, il y a un petit truc sauce, il y a un petit truc pickles. Et je vois très bien quand ça marche pas, c'est parce qu'en fait, c'était juste trop de liquide, trop de choses pâteuses.
Ouais, quand tu dis tout ça, je reconnais vraiment la cuisine que tu proposes avec ce logiciel de pensée très axé autour de l'équilibre. Je t'imagine trop te dire, tiens, là, il manque un truc, ou là, au contraire, il y a trop d'un élément. Quand il y a trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose, du coup, tu as cet équilibre qui s'écroule. Et effectivement, la générosité dans l'assiette, il y a aussi de ça, quoi, l'impression à chaque fois de manger un paysage dans le sens où il faut aller fureter dans l'assiette pour découvrir une épice, soulever une herbe aromatique, mélanger avec un peu de sauce qui va ramener de l'acidité à gauche de l'assiette. C'est vrai que chaque bouchée est différente selon l'endroit où tu te trouves avec ta fourchette ou selon ce que tu as mélangé avec tel ou tel autre ingrédient du plat.
C'est dur à faire dans les bols parce que chez ma grand-mère maternelle, elle a des assiettes très grandes, l'Italie. Et dans l'Italie, j'adore quand elle commence à te servir parce qu'elle va mettre un cuillère de une salade de tomates. Et elle, parfois, elle met un peu de sucre ou quelque chose dans la salade de tomates. Nous, malheureusement, on a un problème de diabète énorme en Inde, on mange trop sucré. Mais elle va faire son petit salade de tomates, elle va faire un bol avec un dal, un bol avec un deuxième dal. Après, elle va mettre deux légumes différents, après elle va mettre le riz, après elle va mettre le chapati ou le roti. Et il y a un rythme aussi, comment tu manges tout, parce que je pense souvent les gens, ils sont beaux, moi, ah waouh, mais est-ce que je mélange tout? Mais c'est comme tu dis, c'est vraiment un jeu de faire tes associations avec tout ce que tu as dans l'assiette. Et j'adore manger comme ça.
La personne qui mange, elle fait donc partie de l'action. On a un rôle à jouer dans l'expérience du plat.
Oui, ça c'est un truc, c'est mon copain Jimmy. Quand on habitait à Bombay, il y avait un lunch house pour, tu sais, comme des cantines pour manger des thalis. Nous, on est allés souvent le soir parce qu'il y avait un thalis encore plus grand le soir. Et c'était, tu sais, tu vas et tu commences à servir plein de petits trucs. Et c'est magique. Et lui, je sais qu'il adorait que parfois, il se trompait et il prenait le gâteau ou le sucré avec un peu de choses pimentées. Mais parfois, ça marche, tu vois.
Parfois, ça marche quand même,
oui. Oui, parfois, c'est un peu bizarre, mais parfois, ça marche. Et c'est aussi ça de faire des accords qui ne sont pas forcément celles que tu avais prévu faire.
Ouais.
Mais ça marche, je pense, avec les choses qu'on mange chez moi, parce que c'est, il y a vraiment un peu de tout dans chaque plat, dans chaque recette.
En parlant d'accords que l'on fait sans s'en rendre compte et donc de créativité, toi, avec Sana, tu proposes une cuisine indienne moderne. C'est comme ça que tu la décris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, moderne?
Parfois, je me demande si c'est pas un peu problématique comme mot, parce que ça veut pas dire qu'en Inde, tout est traditionnel et que tout reste dans un cadre très rigide, parce qu'il y a des gens qui, en Inde, qui sont en train de faire des choses incroyables, qui sont vraiment pionnières. Mais pour moi, c'était juste parce qu'en fait, je voulais dire moderne parce que j'avais l'impression, quand j'ai parlé avec des gens ici, que l'Inde s'est vue juste comme un pays traditionnel, que tout le monde est... Et tout est coloré, tout est magique, tout est un peu sauvage. Mais j'ai trouvé un peu condescendant que les gens sont surpris quand je dis que mon langue maternelle, c'est l'anglais. Je veux pas dire que je suis ouest, je suis occidentale et je suis indienne, tu sais. Mais le même temps, il y a aussi, en Inde aussi, on écoute le jazz, on a une culture de lettres modernes, il y a des autres, on a une, oui, on est aussi un pays de 2021, tu vois.
C'est pas l'image très exotisante que l'on a de l'Inde ici, genre très Bollywood.
Et c'est suivant, c'est une image de Rajasthan et de Delhi. Et aussi qui est un regard très hindou. Et en fait, c'est aussi ça. Moi, mon père, il est catholique, ma mère, elle est hindoue. Et lui, il est marxiste. Ma mère, elle adore toutes les religions, elle adore toutes les fêtes. Donc nous, on a grandi à toutes célébrer. Et c'est aussi un pays avec plein de communautés qui ont passé des moments très durs avec plein de problèmes entre plusieurs religions, mais aussi des moments où on partage tout. Moi, je me rappelle de chaque fête pour Ramadan, on échange, pour Noël on échange, pour Diwali on échange. Il y a toujours cet esprit de communauté qui en fait le gouvernement maintenant maudit le premier ministre et, qui est en train de détruire. Et c'est aussi ça a commencé en fait par, bizarrement, par détruire tous les immeubles qui était moderne de les années 60. Nehru, le premier ministre de l'Inde, qui l'a construit. Et c'était, on peut dire que l'Inde, c'est pas ça, c'est pas l'Occident. C'est, l'Inde, c'est l'hindou, l'Inde, c'est tradition. Ça me rend un peu, oui, ça me rend triste. Parce que moi, j'ai grandi, c'était les années 90, il y avait MTV, Coca-Cola, c'était toute neuve, tu vois, il y avait plein de choses très traditionnelles, mais aussi c'était un moment où ça changeait un peu, mais dans une manière positive. Et je pense que quand je dis moderne, je veux dire ça, que c'est nuancé, c'est, ça donne valeur à la tradition, à la culture, à l'héritage, et ça le ramène aujourd'hui dans un regard un peu plus interdisciplinaire et nuancé.
J'aime beaucoup ce que Zuri dit à propos de la modernité, la sagesse avec laquelle elle met une distance avec ce mot et ce qu'elle tient à rappeler dans cette démarche de modernisation, au sens où il s'agit d'un mouvement, du fait d'aller chercher quelque chose qui a l'air installé et traditionnel pour le déplacer légèrement, sans l'abîmer, mais au contraire pour lui rendre hommage. Avec Zuri, après l'enregistrement, on a continué à parler de la fierté qu'il y a dans certains pays à découvrir aujourd'hui qu'une cuisine de tous les jours peut devenir une cuisine de grand restaurant. Et comment donc l'Inde peut aujourd'hui se vanter d'être à la carte de table gastronomique. Zuri m'a raconté qu'il y a longtemps, quand elle était petite, les enseignes McDo et KFC sont arrivées en Inde et elles sont devenues de tels marqueurs sociaux qu'il était alors de bon ton d'y aller pour fêter une grande occasion. Fort heureusement, la cuisine indienne n'est plus seulement une cuisine de tous les jours, mais aussi désormais une cuisine noble. Si ce que Zuri dit à propos de la difficulté d'être toujours locavore lorsqu'on est une personne racisée en France vous a intéressé, il y a un prochain épisode de Bouffon qui devrait vous plaire. Merci à Zuri Camille de Souza de m'avoir donné de son temps pour parler de cuisine indienne. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Donia Ouahada. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.